L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire par le pasteur Joel Spinks. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
On va juste pencher nos têtes maintenant pour se recueillir dans la parole. Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, ce matin. On veut te remercier, Seigneur Dieu, pour ta présence qui est ici parmi nous. On veut te remercier, Seigneur, pour ta bonté envers nous, pour ta parole et pour ton amour, Seigneur. On te remercie parce que tu es un Dieu compatissant, un Dieu tellement merveilleux, rempli d'amour pour tes enfants. Je te remercie, Seigneur, pour ton désir pour nous, ton désir de nous protéger. Seigneur Dieu, on s'approche aujourd'hui de ta parole et on veut que tu nous enseignes par ton esprit. Seigneur, je prie que tu remplisses ma bouche. Et en même temps, Seigneur, je prie que chaque personne ici puisse avoir un cœur bien disposé pour recevoir ta parole, pour que cette parole puisse porter beaucoup de fruits dans leur vie. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ce matin, je vais vous apporter un message que le Seigneur a mis sur mon cœur vendredi. Comme j'étais là, j'entendais dans mon esprit vraiment des versets de la parole de Dieu. Vous savez, quand le Seigneur nous parle, quand le Seigneur a un message pour nous, des fois c'est pour nous prévenir de certaines choses qui vont arriver. Donc, on appelle ça parfois un message prophétique. Et des fois, comme on est là, le Seigneur prépare son Église à vivre des choses. Le Seigneur, en même temps, veut protéger son Église. Amen. Notre Dieu est comme ça. Notre Dieu nous aime et puis le Seigneur veut nous protéger. Il veut nous protéger de l'agenda de l'ennemi. Et comme nous marchons avec le Seigneur, nous savons qu'il nous conduit dans de verts pâturages. Et le Seigneur a toujours notre bien à cœur. Il a toujours notre bien dans son cœur. Le Seigneur veut nous bénir. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que le Seigneur, aujourd'hui, veut nous parler. Et les versets que le Seigneur a déposés sur mon cœur, c'est des versets que moi, j'ai jamais entendu prêcher de toute ma vie. Je peux vous dire, moi, j'ai été à l'église depuis que je suis au monde, depuis que je suis sur cette terre, dans le ventre de ma mère, j'allais à l'église chaque dimanche matin. Et le premier dimanche que je suis venu au monde, j'étais à l'église. Ben, j'ai été élevé comme ça. On a toujours été à l'église. Et puis, si j'ai manqué des réunions, bien, c'était vraiment exceptionnel. Donc, je peux vous dire, toute ma vie, j'ai été à l'église. Et pourtant, j'ai jamais entendu prêcher un message sur ce que je vais vous prêcher aujourd'hui. Et une des raisons, je crois, c'est que des fois, il y a des versets dans la parole de Dieu qui semblent difficiles à prêcher. Et des fois, on aime prêcher des versets qui sont faciles à prêcher. Comme Jean 3,16, par exemple. C'est facile de prêcher sur Jean 3,16, n'est-ce pas? N'importe qui ici pourrait prêcher sur Jean 3,16, probablement. Donc, oui, c'est merveilleux de prêcher les versets qui nous bénissent, mais il y a d'autres versets, d'autres passages de la parole de Dieu qui sont parfois plus compliqués ou parfois plus difficiles à livrer. Mais le Seigneur nous appelle à prêcher tout le conseil de Dieu. Amen? Amen. Merci, pasteur Jean. Mais le Seigneur nous appelle à prêcher tout le conseil de Dieu, tout ce que Dieu a dit dans sa parole, c'est pour nous. Et une des raisons, je crois, que parfois il y a des divisions dans le corps de Christ, c'est parce que certains prédicateurs ont parfois eu peur de prêcher certaines choses parce qu'ils avaient peur de déranger des personnes. Mais comme vous savez, mon mandat, souvent, c'est de déranger les gens. Mais c'est pas mon cœur, c'est pas mon cœur et c'est pas mon but dans la vie. Mais ça donne que Dieu, peut-être, il se dit, ben lui, quand j'y donne un message, même si ça ne tente pas, il va le faire. Donc, ça donne que Dieu, des fois, me donne des messages, mais ça nous concerne, nous. Mais en même temps, le Seigneur nous donne un privilège aujourd'hui parce que nous prêchons dans les médias. Et je rends gloire au Seigneur pour les pasteurs qui nous écrivent, qui nous disent qu'ils ont changé l'orientation de leur église suite aux messages qui ont été prêchés dans cette maison. Et la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est pour glorifier le Seigneur et le remercier pour ce privilège qu'il nous a donné d'influencer des personnes. Notre cœur, c'est de changer le climat spirituel de la francophonie. Depuis le premier jour, même avant l'implantation de l'église ici, on avait comme mission, c'était de changer le climat spirituel de la francophonie par le biais des médias. Certainement, on a d'autres ministères à l'église, mais ça, c'est l'emphase de la maison ici. C'est de prêcher un message qui va changer des choses. Pas simplement entretenir, mais changer des choses. Amen. Donc, ce matin, je vais vous prêcher un message qui vient de la parole de Dieu, certainement. Et puis, j'aimerais vous inviter à rester avec un cœur ouvert ce matin. Et je crois que le Seigneur, quand il nous donne des passages dans la parole, si on prend le temps de vraiment méditer et de recevoir ce que Dieu a dit, et le contexte historique aussi de certains passages, ce qui se produit, c'est qu'on va ressortir de cette expérience, de cette parole, on va ressortir encore plus bénis. Nous sommes bénis en Jésus-Christ, mais la manifestation de la bénédiction va augmenter dans nos vies comme on s'approche de plus en plus de la parole de Dieu. Donc, le premier texte que j'aimerais vous lire, c'est dans Proverbes chapitre 1 et au 7e verset. Il est écrit, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. » Êtes-vous des insensés aujourd'hui? Non, gloire à Dieu. Ça nous dit dans la Bible du Sommeur, le même texte, « La clé de la sagesse, c'est de révérer l'Éternel. » Mais les insensés dédaignent la sagesse et l'éducation. Mais ce matin, on est ici dans cette maison pour recevoir la sagesse de Dieu, recevoir ces clés de sagesse que Dieu en réserve pour nous. Et la première clé qu'on voit ici, c'est la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse ou même le commencement de l'intelligence. Si on veut marcher dans les voies de Dieu, dans la bénédiction dans nos vies, nous devons avoir la crainte de l'Éternel. Et quand on parle de la crainte de l'Éternel, on ne parle pas ici d'avoir une peur malsaine de Dieu, avoir peur de prier, peur de s'approcher de Dieu dans la louange et tout ça, avoir une crainte comme ça. Non, mais on parle, comme dans la Bible du Sommeur, ça dit, c'est de révérer l'Éternel, c'est d'avoir une révérence pour notre Dieu. Amen. Donc, il y a une différence. On a une révérence pour notre Dieu. On s'approche devant le trône de la grâce avec audace. On est heureux, on est béni de s'approcher de lui, sachant que nous avons été pardonnés de tous nos péchés. On a été totalement purifiés, donc on peut s'approcher de lui. Mais, ça nous dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et ici, ça nous parle justement d'avoir cette révérence pour le Seigneur. Là où on peut avoir un problème au niveau de notre prière ou notre relation avec Dieu, c'est lorsqu'on n'a pas la crainte de l'Éternel. Lorsque nous marchons dans un sentier qui est contraire au sentier de Dieu. Si le Seigneur, il nous dit, voici le chemin de la bénédiction, voici le chemin de la vie, choisis la vie, la parole de Dieu nous dit dans Deutéronome, choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Si le Seigneur nous montre le chemin, et nous n'avons pas la crainte de Dieu, et nous parcourons sur notre chemin, on va se retrouver avec des problèmes plus tard. Et vous savez, Dieu vous aime aujourd'hui, savez-vous ça? Le Seigneur vous aime. Et si vous êtes sur un mauvais chemin, le Seigneur aujourd'hui, par son Saint-Esprit, vous appelle à revenir sur le bon chemin. Et la raison pour ça, ce n'est pas pour vous enlever du plaisir sur le mauvais chemin. Parce que sur le mauvais chemin, même si ça peut sembler comme étant un bon chemin, selon notre perspective humaine, Dieu connaît que la fin de ce chemin-là, c'est la perdition. Il connaît la fin. Et des fois, s'il y a quelqu'un sur un mauvais chemin, puis on leur dit « Reviens à Jésus », et la personne peut dire « Ben, tu me déranges dans mon parcours, ça va bien. » Oui, mais moi, je le sais qu'à l'au bout, il y a un précipice et tu vas mourir. Par amour, on va avertir la personne. Amen. Par amour, celui qui aime véritablement va avertir pour secourir. Amen. Donc, Dieu veut nous secourir des choses qui peuvent nous nuire dans notre vie chrétienne. Et vous savez, le Saint-Esprit qui est ici est dans plusieurs églises, dans la présence de Dieu. Quand j'étais dans une église en Alberta, pasteur là-bas, dans les années 2003-2007. Et puis, comme on était là-bas, on prêche l'Évangile, le même Saint-Esprit est là. Et puis, il y avait un jeune couple qui était là, à l'église, qui ont commencé à fréquenter l'église. C'est un couple qui avait vécu ensemble des années de temps. Un couple qui avait vécu ensemble, n'était pas marié, mais qui venait à l'église comme ça, et qui venait tout juste d'entendre parler de Jésus. Et sans que personne leur parle, sans que personne leur dise que leur situation était dangereuse pour eux, ils ont eu la conviction du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit était présent. Et le Saint-Esprit nous parle personnellement lorsqu'une chose a changé dans notre vie, par amour, parce que Dieu nous aime. Dieu nous aime et Dieu veut qu'on soit avec lui. Et ce jeune couple sont venus me voir dans mon bureau, ils ont dit, « Pasteur, on habite ensemble en dehors des liens sacrés du mariage, on habite ensemble, ça fait 5 ans. » Je pense que ça faisait 5 ans qu'ils habitaient ensemble. Ils ont dit, « Notre vie est faite ensemble, on a notre maison, on a tout ça. » Mais on réalise, le Saint-Esprit nous a montré qu'on vivait dans le péché devant Dieu. Et on sait que le salaire du péché, c'est la mort. On ne veut pas se retrouver en enfer à cause de notre rébellion aujourd'hui. On veut mettre notre vie en règle. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et moi, je dis gloire à Dieu pour ça. Amen. Des gens qui ont une crainte de Dieu, qui veulent honorer le Seigneur dans leur vie, qui ont une révérence pour le Dieu trois fois saint. Et ce que j'ai dit à ce jeune couple-là, j'ai dit, « Ben, je peux vous marier. » Et c'était la solution. Mais la jeune femme, elle dit, moi, j'ai toujours eu un rêve. Je voulais avoir un beau mariage. Je voulais avoir une belle grande cérémonie. Je voulais avoir des noces comme un grand festin. Et financièrement, en ce moment, on n'a pas l'argent. Et je vais mettre de côté mon rêve pour ça. J'ai dit, non, Dieu ne te demande pas de mettre de côté ton rêve. Parce que c'est un mythe. Où des fois, les gens disent, bien, on a besoin d'avoir beaucoup d'argent pour être marié. C'est un mythe, ça. Ce que j'ai dit, écoutez, je vais faire les cours de préparation au mariage avec vous. Vous allez venir dans mon bureau. Vous allez vivre à part, parce que présentement, votre situation, c'est vous savez vous-même, vous l'avez dit vous-même, le Saint-Esprit vous a montré que vous étiez dans un état de péché et en danger spirituel. Donc, ce que j'ai dit, vous allez mettre votre vie en règle présentement. On va faire les cours de préparation au mariage. Et si Dieu vous appelle vraiment à être marié, on va procéder au mariage. Ceci dit, j'ai dit, vous pouvez vous marier cette année. Dans le parc, on n'est même pas obligé de se marier dans une église. J'ai dit, moi, je vais aller vous marier dehors dans un parc et puis vous pourrez choisir la date que vous voulez. L'année prochaine, quand vous aurez mis de l'argent de côté pour votre mariage, j'ai dit, là, vous pourrez retourner dans votre province et pour eux, c'est en Saskatchewan. J'ai dit, vous irez faire un grand mariage là-bas et refaire vos vœux. Vous les ferez devant Dieu, devant moi et devant les témoins. On va signer ça légalement. Puis j'ai dit, dans un an, vous pourrez inviter toute votre parenté et faire le méga party que vous voulez. Parce que les noces et le festin, ça, on peut décaler ça. Il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Quand il y a une révérence pour Dieu, on recherche à marcher dans la sainteté. Et ce jeune couple-là, qui voulait plaire à Dieu, mais en même temps qui voulait vivre leur rêve, ils ont tout eu. Et aujourd'hui, je suis encore ami avec eux. Ils ont une belle petite fille, sont bénis et ils sont un témoignage pour Jésus. Ils ont été un témoignage, ils ont dit, on veut mettre notre vie en règle devant Dieu. On veut honorer le Seigneur et on veut marcher dans son chemin. On a marché sur notre chemin trop longtemps. Aujourd'hui, on revient et on va mettre notre vie en règle. Et vous savez, aujourd'hui, peu importe, là je parle de mariage, mais peu importe, si vous avez un cœur pour le Seigneur, peu importe ce que Dieu va vous appeler à faire, quand vous dites oui, vous allez vivre la bénédiction de l'Éternel. Amen. Et c'est ça que Dieu veut. Donc, Dieu nous appelle aujourd'hui à avoir la crainte de l'Éternel, à avoir une révérence pour son nom. Si on se dit enfant de Dieu, notre vie doit refléter la sainteté. Et des fois, les gens ont peur de parler de sainteté parce qu'ils pensent qu'on va entrer dans le légalisme. Le légalisme, c'est d'imposer des traditions des hommes, des règlements qui ne sont pas dans la parole de Dieu, et on va imposer ça sur les gens. Et il y a eu beaucoup de légalisme, tellement de légalisme que les gens ont peur de la sainteté. Mais il faut revenir et avoir l'équilibre de Dieu, n'est-ce pas? Vivre selon la Bible, c'est pas d'être légaliste, c'est d'être biblique. Amen. Donc, on met notre vie en règle selon Dieu, on vit bibliquement. Et le légalisme, ça, on touche pas à ça, on veut rien savoir des lois des hommes, mais la loi de Dieu demeure éternellement. Amen. Dans Hébreux, chapitre 12, versets 28 à 29, il est écrit dans la Bible du Sommeur, « Le royaume que nous recevons est inébranlable. Soyons donc reconnaissants et servons Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec soumission et respect. » Car notre Dieu est un feu qui consume. Et on comprend que le Seigneur est bon, mais nous comprenons également que le Seigneur est saint. Et ce texte-là nous dit, un feu qui consume, dans 1 Corinthiens 3, 13, ça dit, le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Pour l'enfant de Dieu, on sait qu'on ne sera pas jugé, savoir si on est sauvé ou non. Parce que quand on va comparaître devant le tribunal de Christ, nous savons que nous sommes déjà sauvés et le Seigneur ne nous dira jamais « Bien, t'as fait tel péché » parce que nos péchés sont pardonnés. Amen. Une fois que nos péchés sont pardonnés, sont oubliés pour toujours et le Seigneur a tourné la page là-dessus. Mais c'est nos œuvres qui vont passer par le feu et on verra si nous recevrons une récompense pour tout ça. Mais aujourd'hui, on veut voir la crainte de l'Éternel. Et en même temps, je dois vous dire mon devoir. Le Seigneur me donne trois devoirs ce matin et j'aimerais vous partager ces devoirs-là. Dans Jean 21, verset 17, il est écrit, « Paie mes brebis » ou « Prends soin de mes brebis ». Prends soin de mes brebis. Ma responsabilité devant Dieu, c'est de vous apporter la nourriture spirituelle dont vous avez besoin. La différence entre un pasteur et un orateur, c'est qu'un orateur, vous allez l'entendre, vous allez sur un site web chrétien, ça peut être très, très bien. Et vous écoutez le message que vous voulez entendre. Ça, c'est un orateur. Vous avez choisi, « Ben moi, j'ai besoin de tel sujet. » Et ça peut être vraiment bénissant. Mais parfois aussi, le Seigneur nous appelle à entendre des messages qu'on ne veut pas entendre parce qu'on a besoin. C'est comme nos enfants, on leur dit de manger du brocoli, même s'ils veulent juste manger du popcorn. Hein? Et la différence entre un pasteur et un orateur, c'est qu'on entend ce que Dieu en réserve pour nous. Et si vous êtes ici aujourd'hui, ce n'est pas une coïncidence, le Saint-Esprit a orchestré ce moment pour vous. Amen. Et le Seigneur veut vous toucher, il veut vous parler, et c'est la nourriture que vous avez besoin spirituellement. Il y a des choses qui vont concerner certaines personnes et d'autres choses qui vont concerner d'autres, mais prenez aujourd'hui par la foi ce que Dieu veut vous communiquer. Donc, paie mes brebis, prends soin de mes brebis dans la Bible du Sommeur. Donc, c'est de prêcher le message du grand berger. Et dans Actes 20, verset 27, ici nous disons, « Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. » Dans la Bible du Sommeur, ça dit « Je vous ai annoncé tout le plan de Dieu sans rien passer sous silence. » Amen. Donc, la première chose que Dieu m'appelle à faire aujourd'hui, c'est de vous apporter la nourriture spirituelle. Deuxième chose, c'est de vous secourir. Dans Luc 15, verset 4, vous pourrez lire de ce berger qui est allé rechercher cette brebis. Il y en avait 100, mais il y en avait une qui était partie au loin. Et puis, Dieu démontre la valeur d'une seule personne dans cette parabole. Une seule personne vaut le coup. On quitte et puis on va chercher la brebis qui s'est égarée. Donc, c'est d'aller secourir. Et c'est ça notre responsabilité. Comment est-ce qu'on peut le faire? On peut le faire par un message de Dieu, un message qui est prêché ici. Mais ça peut être en même temps un coup d'appel, ça peut être un coup de téléphone, ça peut être par plein de façons, une rencontre, tout ça. Mais le Seigneur nous appelle à secourir les personnes qui s'en vont dans une mauvaise direction. Et une autre chose que le Seigneur nous appelle à faire, c'est vraiment d'arriver à ce point où nous allons avertir. Avertir pour protéger. Dieu aime chaque brebis. Saviez-vous ça? Vous êtes une brebis de Jésus. Quand il y a une personne qui arrive dans cette église, je vois cette personne comme étant une brebis qui appartient à Jésus. Ma responsabilité, en tant que ce que le Seigneur m'a appelé à faire, c'est de vous protéger. Comment est-ce que je peux le faire? Je peux prier pour vous la semaine. Je peux prier pour vous. Mais en même temps, je dois être à l'écoute de la voix de l'Esprit pour vous protéger et vous avertir des choses avant qu'elles arrivent. Comme ça, lorsque des courants, lorsque des choses qui arrivent, vous êtes déjà informés. Amen. Et ça, c'est mon cœur, c'est d'être à l'écoute de l'Esprit de Dieu pour vous protéger et de sonner la trompette. Vous pourrez lire dans Ézéchiel 33, versets 1 à 11. Et vous verrez ici, c'est notre responsabilité en tant que berger d'annoncer, de sonner la trompette lorsqu'il y a un danger. Aujourd'hui, il y a trois questions pour vous maintenant. J'ai ces questions-là. J'aimerais vous poser la première question. Croyez-vous la Bible? Croyez-vous la Bible aujourd'hui? Donc, je vais reposer. Croyez-vous la Bible aujourd'hui? OK, j'ai une deuxième question. Croyez-vous toute la Bible aujourd'hui? Toute la Bible. Vous croyez toute la Bible? Gloire à Dieu. Troisième question. Est-ce que la Bible est votre autorité finale? Amen. Bien, si c'est le cas, on doit désirer la parole de Dieu, n'est-ce pas? On va examiner des passages aujourd'hui, certains textes qui sont peu prêchés, parce que les gens ne veulent pas les prêcher. Mais gloire à Dieu, aujourd'hui, on va les voir et on va les comprendre à la lumière de la parole de Dieu. On va comprendre ces textes-là à la lumière du contexte historique pour arriver à une place où on va vraiment saisir des vérités et vivre comme des brebis du Seigneur Jésus dans la bergerie et protégés par le Seigneur. Et vous savez, je crois, comme j'étais en train de louer le Seigneur ce matin pendant la louange, c'est venu dans mon esprit, si on avait prêché ces versets-là, on aurait beaucoup moins de divisions dans les églises. Si on avait prêché ces choses-là, on serait beaucoup plus ensemble. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on aurait gardé l'Église dans l'ordre de Dieu. Il y aurait eu une sainte crainte de Dieu et des principes de Dieu. Et moi, je crois, dans notre cœur, dans cette maison, on veut honorer le Seigneur. On veut marcher dans ses voies, on veut marcher dans l'amour de Dieu, dans la sainteté. Et comme on va y arriver ensemble, on va vraiment voir la main de Dieu et continuer à nous bénir. Je veux vous inviter maintenant dans Galates chapitre 6 et le verset 1. On va parler de la grâce et de l'amour véritable dans l'Église. La grâce et l'amour véritable. On veut établir ce matin ce qu'est vraiment la grâce de Dieu et l'amour véritable dans une Église. Il y a des gens qui vont dire, nous, on ne confronte jamais les pécheurs dans notre Église. Nous, on ne confronte jamais ça parce qu'on laisse l'Esprit de Dieu tout faire. on ne confronte jamais. Et je peux vous dire, cette église serait plus grande aujourd'hui, numériquement, mais pas spirituellement, là, mais on serait une église plus grande si on avait adopté cette philosophie-là. Si on disait, on ne dira jamais rien à personne, parce qu'on veut que tout le monde soit content. Mais ça s'adonne qu'on veut honorer le Seigneur. Amen. On veut marcher dans ses voies. Puis ce qui est vraiment merveilleux, si on aime véritablement, on va secourir quelqu'un par amour et on va accepter les persécutions qui vont venir par la suite. Si je m'aime plus, si j'aime plus Joel Spinks et si j'aime plus la croissance numérique, je vais dire des choses pour plaire aux gens puis je vais m'abstenir de dire les choses qui vont déplaire. Parce que je vais être égoïste et je vais penser à moi. Je vais être là, je vais prêcher pour mon propre ventre et pas pour honorer le Seigneur. Mais ce matin, ce qu'on veut voir, c'est ce que Dieu nous dit. Dans Galates 6, verset 1, il est écrit, « Frères, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. » Le Seigneur nous dit ici, qu'on doit redresser un frère qui a chuté dans le péché. Et Dieu nous dit exactement comment faire. Avez-vous remarqué? Ça nous dit ici, redressez-le avec un esprit de douceur. Pourquoi, pensez-vous? Parce que le Seigneur connaît. Il connaît l'état de la brebis qui a chuté. Il sait s'il y a quelqu'un qui arrive et qui est là avec un esprit arrogant, un esprit qui est là pour écraser la personne. Il sait que la brebis va s'enfuir. La brebis va avoir peur. Mais si quelqu'un arrive avec un esprit de douceur et dit, « Mon frère, ma soeur, je vois que tu es à terre en ce moment, mais je veux t'aider à te relever. Je veux t'aider à panser tes blessures. Je veux t'aider. » Et puis la personne reçoit l'amour de Dieu à travers votre vie. On le fait selon le cœur de Dieu. Amen. Ça, c'est la grâce véritable. Mais l'amour personnel dit, « La personne est à terre et je l'ignore. Et puis je fais comme si rien n'était. » Et puis la personne continue dans un faux chemin, s'en va loin de Dieu et vit de plus en plus la malédiction dans sa vie. Elle vit de plus en plus la malédiction dans sa vie. Et puis on est là, on veut rien dire. On ne veut rien dire parce qu'on ne veut pas déplaire. Mais l'amour de Dieu nous pousse à agir. L'amour de Dieu nous pousse à aller secourir la personne qui est à terre. Et c'est ça qu'on a toujours fait dans cette église et c'est ça qu'on va continuer à faire parce qu'on veut honorer le Seigneur dans la maison. C'est notre mandat. Amen. Donc, vous acceptez ça? Ça, c'est l'amour véritable. L'amour véritable cherche à secourir. Amen? Et quand on vient secourir une personne, ce n'est pas avec un esprit de jugement, de condamnation, c'est avec l'amour de Dieu. Amen? Gloire à Dieu. Là, on peut se poser la question, mais comment faire? Comment pouvons-nous redresser un frère? Est-ce que Dieu nous dit comment faire? Dieu nous dit exactement comment faire et on va voir ça ensemble ce matin. Venez avec moi dans Matthieu chapitre 18. Matthieu 18, verset 15 à 17. Le cœur de Dieu, c'est toujours un cœur d'amour pour chaque brebis. Dieu connaît les brebis, Dieu les aime, Dieu veut les protéger. Dieu va tout faire. Il a déjà tout fait. Il a envoyé son fils Jésus mourir à la croix pour sauver les perdus. Et une fois que la personne est sauvée, il va tout faire dans son possible pour protéger la personne. Parce que Dieu aime, Dieu nous aime. Et on peut être les agents de Dieu. On peut être les agents du Saint-Esprit pour travailler et aider nos frères. Dans Matthieu 18, versets 15 à 17, il est écrit, « Si ton frère a péché, va et repends-le à toute l'église, appelle à droite, à gauche, parle-en à tout le monde. » Est-ce que c'est ça que ça dit? Non! Appelle, mettez ça sur Facebook et dites à tout le monde comment votre frère a péché. Non. Ça dit, « Si ton frère a péché, va... » Donc, déjà, va, le mot va, là, c'est un verbe. Ça veut dire on est poussé à l'action. On doit agir. Amen. Avez-vous remarqué ça, le mot va? Ça veut dire qu'on n'est pas là pour ignorer, faire semblant de rien. Si on est au courant, c'est à nous d'aller. Aller avec le cœur de Dieu. Ça dit va et reprends-le entre toi et lui seul. Pourquoi? Parce qu'on veut protéger la réputation de la personne. On ne veut pas que ça se répande partout dans l'église. On veut aller vers la personne et secourir. Donc, va, va et reprends-le entre toi et lui seul. Ça, c'est le cœur de Dieu. Ça, c'est le cœur qui veut protéger la réputation, qui veut secourir la brebis perdue ou qui s'éloigne. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Avez-vous remarqué ici? Si tu as gagné ton frère, l'objectif c'est de gagner notre frère. Voyez-vous? C'est de gagner la personne, c'est pas de la faire fuir. L'objectif c'est toujours d'aller la gagner. Puis quand il va avec le cœur de Dieu, avec un esprit de douceur, d'amour, la personne, trois quarts du temps, la personne va dire, c'est vrai, merci de venir vers moi, merci de m'aimer assez, de me dire la vérité, merci. Et là, la personne est restaurée, et il n'y a personne qui le sait, sauf vous et la personne. Et gloire à Dieu, la personne est restaurée, et on la voit à l'église, louer le Seigneur, et l'agenda de l'ennemi, l'agenda de destruction a été avorté. Et puis là, voilà, la personne avance dans les voies de Dieu. C'est ça le cœur de Dieu. Amen. Ça évite bien des problèmes et ça évite beaucoup de divisions d'église. Deuxième chose, ça dit, mais malheureusement, s'ils ne t'écoutent pas, il y en a des frères qui n'écouteront pas toujours. Le Seigneur avait prévu pour cette chose. Mais s'ils ne t'écoutent pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou trois témoins. Remarquez ici, afin que toute l'affaire se règle. Ce qu'on veut, c'est que ça soit réglé, cette affaire-là. Peu importe, c'est cœur de Dieu, que ça soit réglé, que la personne soit secourue. Amen. Donc, on va prendre une ou deux personnes. Pourquoi? Avoir des témoins. Et là, c'est trois personnes qui arrivent remplies d'amour. Remplies d'amour, qui sont là, comme des ambulanciers qui arrivent sur la scène pour secourir. C'est jamais comme on arrive comme le juge et les avocats. Dans les églises, parfois, ça a été ça. Ça a été monsieur le juge et deux avocats. T'es pas correct. Ça, là, c'est pas le cœur de Dieu. C'est pas le cœur de Dieu, ça. Le cœur de Dieu, c'est d'aller secourir. Amen. De le reprendre avec un esprit de douceur pour que la personne soit disposée à dire, « OK, je me repens. » Amen. Voyez-vous une différence entre « et » une différence. Essayez ça avec vos enfants. « T'es pas correct. » Ou « Viens, je vais t'acheter une poutine. » On continue. Diète. Eh oui, j'ai inventé ça dimanche passé. OK. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou trois témoins. Là, verset 17. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Là, les gens ont mal interprété ça. Ils ont dit, bien là, dimanche matin, excusez, hello, pasteur, j'ai une chose à dire. Non, c'est pas ça que ça veut dire du tout. C'est qui a l'autorité derrière le micro le dimanche matin, typiquement? C'est le pasteur, pensez-vous? Bon. C'est juste comme ça que ça marche. Bon, là, quand ça dit, s'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Ça parle à celui qui a le droit de parole, l'autorité dans l'Église. Ça, on va le dire aux pasteurs, aux anciens. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Ah! Ça veut dire que c'est la guerre, la troisième guerre mondiale contre la personne. Non, non plus. C'est pas ça non plus. On a mal interprété ces versets-là. Quand ça dit, s'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Comment est-ce qu'on va traiter un païen? Avec des bombes explosives? Non, avec amour. On va traiter les païens, les personnes qui ne connaissent pas Dieu, on va les traiter avec amour quand même. Et un publicain, on va les traiter avec amour. Toujours on marche dans l'amour. Mais comment est-ce qu'on fait à ce moment-là? Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Nous marchons dans l'amour et nous prions pour la personne sans les considérer comme des frères. C'est ça la différence. On ne donnera pas une fausse assurance à la personne rebelle qui refuse. Après les trois démarches bibliques que je viens de vous montrer, on ne dira pas à personne qui vit dans le péché, qui est vraiment rebelle, après tous vos efforts remplis de l'amour de Dieu, tout ce que vous avez essayé d'aller secourir la personne, et la personne dit « Je veux rien savoir ». Personne comme ça qui dit « Je veux rien savoir », la seule chose que vous pouvez faire, c'est la considérer comme un publicain ou un païen. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, vous la traitez comme si la personne n'est pas sauvée. Mais vous n'êtes pas là pour la juger, mais vous priez pour elle, afin qu'elle vienne à Jésus véritablement. Amen. Donc, on ne donnera pas une fausse assurance à une personne puis dire, ben, tu as déjà fait la prière de repentance, même si tu vis comme le diable, il n'y a pas de problème, écoute, là, c'est pas ça que Dieu nous dit pantoute. Pas du tout. Non, la Bible nous dit clairement comment on doit agir. Donc, il y a les trois étapes. Et là, par la suite, si la personne refuse de revenir à la parole de Dieu, notre responsabilité, c'est de prier pour eux et de les traiter comme des païens, ce qui veut dire on va continuer à marcher dans l'amour parce qu'on aime les païens aussi. Savez-vous que Dieu aime les païens? Dieu aime les païens. Donc, on veut revenir ce matin avec de l'équilibre. Amen. Mais que devons-nous faire maintenant avec les rebelles? Ici, dans 1 Samuel, chapitre 15, verset 23, dans la Bible du Sommeur, ça nous dit « L'insoumission ou la rébellion, en anglais ça dit la rébellion, est aussi coupable que le péché de la divination. » En anglais, ça nous dit « la sorcellerie. » Quelqu'un qui est rebelle devant la parole de Dieu, c'est aussi coupable, la Bible nous dit, que le péché de la sorcellerie. Je veux que vous compreniez ça pendant quelques instants. Parce que mon cœur ce matin, ce n'est pas pour vous juger, mais c'est pour vous aider à comprendre. Si une personne, après 3 visites, admettons, on est allé vers une personne pour la secourir, mais après 3 visites, la personne est déterminée et dit, « Je ne veux pas servir Jésus-Christ, je ne veux pas mettre ma vie en règle, je veux marcher avec le diable, par exemple. C'est ça que je veux faire, mais j'aime ça la musique à EVQ, puis je veux aller chanter avec vous. » Ça ne fait pas de sens, hein? Ça ne fait pas de sens. Mais la Bible nous dit de cette personne qu'une personne insoumise ou rebelle, c'est une personne aussi qui commet un péché aussi grave qu'une sorcière, que la sorcellerie. Comprenez-vous ça ce matin? Donc, être rebelle envers Dieu, le Saint-Esprit qui nous convainc et qui dit non, c'est dramatique, c'est vraiment terrible. Et on doit le comprendre. On doit vraiment comprendre ces choses-là. Si on ne comprend pas ces choses-là, ce qui se produit dans nos églises, il y a des gens que la Bible appelle des gens avec un cou raide. On leur dit quelque chose pour leur bien, mais leur cou est raide et puis ils ne veulent pas tourner dans la direction que l'Esprit de Dieu les appelle à aller. Donc, c'est des gens avec un cou raide et le moment qu'on dit quelque chose, la personne est offusquée, quitte l'église. Des fois, la personne quitte avec un troupeau aussi dans la bergerie et va ouvrir une nouvelle église avec un esprit de division. Mais imaginez ce qui s'est produit dans ce phénomène-là. Il y avait un esprit de sorcellerie dans ce regroupement-là. Réalisez-vous ça ce matin? Est-ce que c'est ça que la Bible nous dit? Oui, c'est très, très grave. C'est très grave. Et c'est pour ça que comme j'étais en train de louer le Seigneur, ça me disait, si on avait mis le doigt là-dessus avant, là, il y aurait beaucoup moins de division dans nos églises. Mais c'est un message que peu veulent prêcher, parce que personne qui va m'envoyer des courriels cette semaine pour me dire comment ils ont été bénis. Mais peut-être que oui, qui sait. Vous avez la grâce? Vous êtes toujours là? Là, vous dites, ben, pasteur Joël, là, j'aurais aimé mieux que tu me prêches sur comment être guéri ce matin ou comment Dieu veut me bénir financièrement. Alléluia, gloire à Dieu. Mais vous écouterez un enseignement sur enseignement.com. J'en ai prêché des messages comme ça. Mais Seigneur, aujourd'hui, savez-vous ce que Dieu veut faire? Dieu veut protéger les brebis qui sont ici, mais aussi il y a d'autres brebis qui arrivent prochainement. Et le climat de cette maison doit rester un climat où il y a une révérence, une crainte de Dieu. Si on peut garder cette philosophie biblique et dire, dans cette maison, on a une crainte pour Dieu. Ce que Dieu a dit, la façon de procéder quand il y a des péchés, on va faire exactement ce que Dieu a dit et on va éviter les dégâts. Dans cette maison, nous marchons selon Dieu. Amen. Si on se dit tous ensemble, individuellement, là, on n'est pas rebelle, on est soumis à Dieu et on va marcher dans ses voies, watch out! Cette église, non seulement va continuer à être bénie comme on est là, mais elle va grandir. Et aussi, j'ai un défi aujourd'hui aux pasteurs. Je sais qu'il y a des pasteurs qui m'écrivent régulièrement, qui sont bénis par l'église ici. Gloire à Dieu et que Dieu vous appelle à prêcher ce message-là également dans vos églises. Amen. Parce que si on peut influencer d'autres églises, peut-être même dans cette ville où on va arrêter d'aller dans un sens contraire à la voix de Dieu, Dieu va faire vraiment un grand travail parmi nous dans nos églises. C'est ça que Dieu veut. Et vous dites, ben, si, admettons, moi, je vois un frère dans le péché, et là, ton message m'interpelle, mais ça risque de me déranger, pasteur Joël, ça ne me tente pas nécessairement d'y aller et le faire. J'aimerais vous lire un texte. L'apôtre Paul a écrit dans Galates, chapitre 4, verset 19. Il dit, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. On sait que l'Église ici, des Galates, ici dans le texte, c'est une Église qui retournait au système de la loi au lieu de marcher dans la grâce. Puis là, l'apôtre Paul, il devait toujours revenir et dire, non, c'est pas par la loi qu'on est sauvé, c'est par la grâce. Puis j'éprouve encore des douleurs dans l'enfantement. Il voulait tellement qu'ils comprennent. Et des fois, c'est douloureux enfanter spirituellement. Des fois, c'est pas toujours facile. Il y a des moments où on doit prier pour nos frères et nos sœurs qui vont dans une mauvaise direction et aller vers eux et les secourir. Amen. Donc, il y a des douleurs. Et dans 2 Timothée 2, 3, c'est dit, tel un bon soldat. L'apôtre Paul dit à son fils spirituel Timothée, tel un bon soldat de Jésus-Christ, prends comme moi ta part de souffrance. Prends comme moi ta part de souffrance. Des fois, vous allez vouloir aller secourir une personne et au lieu de vous recevoir, la personne va monter un complot contre vous et va vous attaquer et va publier des mensonges à votre sujet. Est-ce que ça se peut, ça? Oui, il y a toujours un risque. Et c'est pour ça, des fois, les gens disent, « Ben moi, je ne veux rien faire. Je ne veux pas secourir la personne. J'ai peur ce que ça va me coûter. » Mais Dieu nous appelle aujourd'hui à payer le prix et d'aimer véritablement. Amen? Amen. Là, ce que je vous ai dit ce matin, c'est les versets les plus faciles. Là, êtes-vous prêt à aller dans les versets les plus difficiles? Là, vous dites, « Ben, où la porte, là? Je vais m'en aller. » Écoutez ceci. Si vous recevez tout le conseil de Dieu, ce que Dieu a dit dans sa parole, vous allez plus fort et vous êtes protégé. Puis en même temps, vous allez avoir la philosophie de Dieu pour protéger les nouvelles personnes qui vont arriver. Amen. Gloire à Dieu. Venez avec moi dans 2 Jean chapitre, au premier chapitre, versets 7 à 11. 2 Jean chapitre 1, versets 7 à 11. Là, je vais vous lire les textes que j'ai jamais entendus dans toute ma vie chrétienne. J'ai jamais entendu ces textes-là lus dans les églises. Puis vous dites, ben mon Dieu, je me demande bien, c'est quoi ces versets-là? Je les ai jamais entendus prêcher dans les églises. Et puis, le Seigneur m'a dit de les prêcher. Alléluia! Merci, Seigneur! Ça me tente au bout! On va les lire. Première chose qu'on veut établir, Dieu cherche à protéger son Église, donc Dieu cherche à vous protéger. Les textes qu'on va lire ici sont pour votre protection. Amen. Dans 2 Jean, chapitre 1, versets 7 à 11. Ça nous dit, « Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. » On parle des récompenses. Amen. On ne parle pas du salut dans ce texte-là, mais les récompenses de notre travail. On fait des bonnes œuvres pour le Seigneur, il y a un fruit à ce travail-là, et on va avoir des récompenses. Ça dit, prenez garde à vous-même de ne pas les perdre. Verset 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Vous suivez jusqu'à présent, c'est bien. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. On lit ce texte-là, et là, il y a toutes sortes de pensées, toutes sortes de choses qui se produisent dans nos têtes, tout d'un coup. Mais vous savez, ce qu'on doit comprendre dans ce texte, c'est que ça s'adresse à une église qui se passait dans une maison. Et je vais vous lire, dans la Bible du Sommeur, j'ai pris le temps d'imprimer ces textes-là. Je veux vous lire à partir de la Bible du Sommeur. Êtes-vous toujours réveillé avec moi ce matin? On va le lire ensemble. Je veux vous lire exactement le but de cette lettre-là et comment ça nous implique aujourd'hui. Là, dans 2 Jean chapitre 1, commençons au premier verset. Il est écrit, « L'ancien, qui est Jean qui écrit, donc l'ancien, à la dame que Dieu a choisie. » Nous savons qu'il y avait une dame ici, responsable de l'Église, qui se rencontrait dans sa maison. Donc, si vous comprenez, à l'époque, dans l'Église primitive, cette femme-là est en charge d'une Église. Il y a les gens, les frères, les sœurs qui viennent à l'église, dans sa maison. On comprend que l'église, ce n'est pas un bâtiment avec un pignon, hein, n'est-ce pas? Mais c'est nous, nous sommes l'église. Et ça donne que cette église-là se rencontrait dans la maison de cette dame. L'ancien, à la dame que Dieu a choisie et à ses enfants que j'aime dans la vérité, ce n'est pas moi seul qui vous aime, mais aussi tous ceux qui connaissent la vérité. À cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera éternellement avec nous. Verset 3, « La grâce, la bonté et la paix qui nous viennent de Dieu, le Père et de Jésus-Christ, le Fils du Père, seront avec nous pour que nous en vivions dans la vérité et dans l'amour. J'ai éprouvé une très grande joie à voir certains de tes enfants vivre selon la vérité. » Donc, c'est super ça, Jean dit à cette dame, « Je suis super content qu'il y ait des gens qui marchent dans la vérité dans ton Église, comme nous en avons reçu le commandement du Père. » À présent, chère dame, voici ce que je te demande. Ce n'est pas un commandement nouveau que je t'écris, c'est celui que nous avons reçu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres. Et on est tous d'accord, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Amen. Et voici en quoi consiste l'amour, c'est que nous vivions selon les commandements de Dieu. Tel est le commandement selon lequel nous devons vivre, comme vous l'avez entendu depuis le commencement. Il n'a pas d'autre but que de vous amener à vivre dans l'amour. Bon, verset 7, ça dit, « Un grand nombre de personnes qui entraînent les autres dans l'erreur, se sont répandus à travers le monde. Là, Jean est en train d'avertir cette dame. Il dit, là, fais attention, il y a un grand nombre de personnes qui entraînent les autres dans l'erreur, se sont répandus à travers le monde. Ils ne reconnaissent pas que Jésus-Christ est devenu véritablement un homme. Celui qui parle ainsi est trompeur, c'est l'Antichrist. Prenez donc garde à vous-même pour que vous ne perdiez pas le fruit de vos efforts, mais que vous receviez une pleine récompense. Voyez-vous ce que Jean est en train de dire ici? Celui qui ne reste pas attaché à l'enseignement qui concerne le Christ, mais qui s'en écarte, n'a pas de communion avec Dieu. Celui qui reste attaché à cet enseignement est uni au Père comme au Fils. Si quelqu'un vient vous trouver et ne vous apporte pas cet enseignement, ne l'accueillez pas dans votre maison et ne lui adressez pas la salutation fraternelle. Celui qui souhaiterait la bienvenue se rendrait complice de ses œuvres mauvaises. Savez-vous ce que ça veut dire, ce texte-là? Il y a des gens qui ont pris ce texte-là parfois pour dire si quelqu'un n'enseigne pas la bonne doctrine, qu'on leur dit même pas bonjour sur la rue. Il y a des gens qui ont dit ça, là, ils croient plus comme nous, on leur dit pas bonjour. La Bible ne dit pas ça ici, c'est aucunement rapport. Ce que ce texte-là nous dit, c'est qu'il y avait une dame et il y avait une église dans sa maison. Et puis, là, il nous dit au verset 10, Jean dit à la dame, si quelqu'un vient ne vous apporte pas cet enseignement, ne l'accueillez pas dans votre maison. Ça veut dire, n'accueillez-le pas dans votre église. Ne le faites pas prêcher dimanche matin. S'il ne croit pas en Jésus-Christ et la doctrine de Christ, ne l'invitez pas, ne lui donnez pas la salutation fraternelle. « Hey, mon frère, viens nous prêcher que Jésus n'existe pas. » C'est ça que ça veut dire. Comprenez-vous le contexte? Donc, ce qu'on doit comprendre de ce texte-là, tout simplement, c'est merveilleux, on va démystifier ce texte-là, ce passage-là. Ce qui est merveilleux, c'est que derrière la chair ici, c'est seulement ceux qui croient que Jésus est venu sur la terre qui va prêcher. Pas trop compliqué comme texte, n'est-ce pas? Amen. Moi, je suis d'accord avec moi-même. Amen, amen, amen. Donc, il s'agirait de la salutation d'accueil dans l'église qui se réunissait à l'époque dans une maison. Bon, moi, je trouve ça merveilleux de mettre les pendules à l'heure. Donc, ce que Jean est en train de dire, n'invitez pas des gens avec des fausses doctrines prêcher dans vos églises. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que c'est une bonne recommandation? Êtes-vous content qu'on n'invite pas des gens dans des cercles derrière la chair ici? Mais bon, gloire à Dieu. Amen. C'est tout ça que ça veut dire. Donc, n'invitez-les pas dans vos maisons, ça parle de l'église. Amen. Bon, ben moi je suis d'accord. Maintenant, donc, Dieu veut protéger ses brebis de la séduction. N'est-ce pas merveilleux de savoir, Dieu m'aime tellement qu'il a mis des bergers dans l'église pour que je sois protégé, pour pas que j'entende des faussetés derrière la chair. N'est-ce pas merveilleux que Dieu veut me protéger? Amen. Gloire à Dieu. Donc, c'est pas négatif. Voyez-vous, il y a des versets, des fois, qu'on n'ose pas prêcher parce qu'on les comprend mal. Mais Dieu, ici, il veut juste nous protéger. C'est juste pour notre bien. Une autre chose que Dieu veut faire et que le Seigneur fait parmi nous, c'est une protection spirituelle contre les profiteurs. Un autre texte qu'on veut pas prêcher. Mais savez-vous que des gens qui s'infiltrent parfois dans les églises, qui font semblant d'être chrétiens pour vous soutirer de l'argent, qui viennent, qui veulent être vus et dire, « Ben moi, je vais à l'église La Victoire du Québec. » Et puis, la personne n'a pas une relation avec Jésus-Christ, la personne n'est pas sauvée, mais elle vient à l'église La Victoire du Québec parce qu'elle peut le dire aux autres qu'ils fréquentent notre église. Et puis, ces gens-là viennent vous voir et vous disent, « Ben là, j'ai des besoins financiers. Pourrais-tu m'aider? » Et là, parce qu'on est des chrétiens et on aime les gens, on va sortir et on va aider. Amen. C'est comme ça qu'on agit, les chrétiens. Et les païens le savent. Et puis ils disent, ben là, on va aller dans les églises, on va soutirer de l'argent comme ça. Je peux vous dire, on est une église où on aime les gens. Ce que je vais vous dire, en parlant des profiteurs, c'est pas pour les gens dans la maison qui ont parfois de l'aide. Notre église, là, ce qu'on veut faire, c'est aider les enfants de Dieu et aider même les païens. On va tout faire ça. On va aider ceux que le Seigneur nous appelle à aider, parce que Dieu nous appelle à aimer. Donc, on ne parle pas aux gens ici qui ont reçu de l'aide de l'Église. Ce n'est pas du tout ça. Ce que je veux vous dire, s'il y a des gens qui viennent dans cette Église, qui vous demandent de l'argent, s'il vous plaît, dites-leur de venir voir le pasteur ou quelqu'un de l'équipe pastorale, et on va évaluer la situation, et on va aider les gens. C'est comme ça passe. Venez vers nous, et si on le sait déjà que la personne a reçu des milliers de dollars, à droite et à gauche, par des frères et des sœurs, on le sait, nous, parce qu'on va être au courant. Comprenez-vous? Dieu veut une protection contre ceux qui veulent vous voler de l'argent. Je peux vous dire, vous dites, « Pasteur, pourquoi tu nous parles des affaires comme ça? Ça n'arriverait jamais ici. » C'est arrivé ici, frères et sœurs. Et la personne n'est plus membre à EVQ, elle n'a jamais été membre à EVQ, mais Dieu nous appelle à discerner. Et le Seigneur nous appelle, en tant qu'équipe pastorale, d'avoir les yeux ouverts. Et quand on voit qu'il y a des gens qui viennent pour tirer de l'argent, soutirer de l'argent, on est là aussi pour vous protéger. C'est ça que Dieu veut, vous protéger. Il y a des gens qui arrivent avec des besoins légitimes. On veut les aider. On a EVQ, entre aide EVQ, pour aider les gens. On aide les gens dans la maison de Dieu aussi, qui ont parfois des besoins, ils vont nous le dire. Et puis, vous savez que ce qu'on veut faire, c'est évaluer les situations pour ne pas laisser les gens dans le besoin. Si des fois, il y a des choses qu'on peut faire, on dit, savez-vous, on a un cours merveilleux aussi qui s'appelle « Budgéter bibliquement ». Venez suivre ce cours-là, on va vous aider dans vos finances. L'objectif, ce n'est pas de vous garder dépendant, l'objectif, c'est de vous enseigner les principes de Dieu et vous aider à aller de l'avant. On va être là pour vous aider jusqu'à temps que vous y arrivez, mais on veut prendre soin de vous. Amen. Il y a toutes sortes de ressources, mais on doit être au courant. Si vous donnez de l'argent à droite et à gauche, à des personnes, des nouvelles personnes qui disent « j'ai besoin de manger », ah ben, va le dire au pasteur, va rencontrer quelqu'un de l'équipe pastorale, et nous, on va discerner. Il y a des gens qui veulent venir, et tout d'un coup, ils n'ont plus d'argent, ils reviennent à l'église, et là, ils nous disent qu'ils ont des besoins financiers. Bien, ici, on n'est pas une banque. On n'est pas la banque EVQ, on est l'église EVQ, hein? L'église de la Victoire du Québec. Si les gens viennent juste pour l'argent, ils sont mieux d'aller ailleurs. Amen. Parce que vous savez, des fois, ça circule dans le monde chrétien ou dans le monde. Bien, là-bas, ils vont nous aider. Puis c'est une bonne réputation, je suis d'accord avec ça. C'est correct, mais on doit discerner les gens qui ont un cœur sincère ou les gens qui sont des profiteurs. Si vous dites, bien, pasteur, moi, je ne veux pas entendre ça. Mais je veux vous lire le verset dans la Bible. Êtes-vous ouvert à ça? Dieu veut protéger son Église. Dieu veut bénir son Église. Et Dieu veut qu'on devienne vraiment une source de bénédiction pour les gens, qu'on puisse vraiment bénir les gens à droite et à gauche. Là, je ne dis pas, vous invitez quelqu'un à un repas puis venez nous demander. C'est pas ça le principe. Comprenez-vous ce que je veux dire? Êtes-vous capable de faire la part des choses? Êtes-vous capable? Vous avez à cœur de bénir quelqu'un? Ah, faut que je demande au pasteur. C'est pas ça qu'on dit. Mais payez pas le loyer de quelqu'un comme ça, puis qu'un autre frère paye le loyer d'une autre personne et une autre personne. Puis là, la personne se fait plein d'argent en venant à l'église. C'est pas une carrière de venir ici à EVQ. On vient pour apprendre la parole. Amen. Mais Dieu vous aime assez qu'il vous avertit aujourd'hui, puis c'est dans la Bible. Alléluia. Je vous lis un texte. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, versets 6 à 15. Il est écrit, « Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas au nom du pasteur qu'il dit, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. » Là, vous allez voir, mais quelle sorte de recommandation biblique c'est ça. Vous allez voir quel type de désordre, typique, justement dans ce texte-là. « Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail, dites travail, et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous avons voulu donner en nous-mêmes un modèle à imiter. » Donc l'apôtre Paul est en train de dire ici, on travaillait, on sait que l'apôtre Paul faisait des tentes. Et puis là, il est en train de dire ici à l'église en Thessalonique, quand on était chez vous, là, parce qu'il connaissait le contexte, il y avait des prêtres profiteurs, des prêtres païens à l'époque, puis lui, il voulait tellement être différent, il a dit, écoute, même si on a le droit de recevoir notre salaire, mais il dit ailleurs dans d'autres passages, il dit, je voulais tellement être un modèle pour vous, j'ai même pas pris de paye avec vous, parce que justement, je voulais vous montrer, je voulais vous servir de modèle. Là, verset 10, car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Ah, mon doux! Là, vous dites, ben ça ne semble pas trop compatissant. Mais c'est la Bible. Et vous m'avez dit au tout début de la prédication que vous croyez toute la Bible. N'est-ce pas? Croyez-vous toute la Bible? Encore? Vous la croyez encore toute? Bon, super. Ça dit, nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Vous comprenez? Est-ce que ça fait du sens? Ici, est-ce qu'on parle de quelqu'un qui est malade, qui a besoin de l'assistance? Non, on parle de quelqu'un qui ne veut pas travailler. Okay? On parle de quelqu'un qui est capable de travailler, qui ne veut pas travailler, qui veut se faire vivre par les autres. Ça dérange encore du monde. Amen. Pour vous, frères, ne vous lassez pas faire le bien. OK, il est en train de dire, vous les frères, vous travaillez, vous prenez soin des autres, ne vous lassez pas de faire le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le. Si quelqu'un qui ne veut pas travailler, qui ne veut pas obéir, notez-le et n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Oh, et ça, c'est les versets que personne ne veut prêcher. Versets 13 puis 14 et 15. Est-ce que je peux les relire? Tant qu'à me faire attaquer, là, on y va pour de vrai. Écoutez bien, verset 14, je lis. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous vous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Dans une autre version, ça dit « cessez de le fréquenter » dans la Bible des peuples. « Cessez de le fréquenter hey, ». Mais c'est sévère. Vous dites « mais c'est donc sévère la Bible ». Ici, savez-vous comment c'est sévère? C'est pas que Dieu veut être sévère, mais ici, il s'adresse à quelqu'un de non repentant. C'est ça l'affaire. C'est quelqu'un qui ne veut pas travailler. Puis ça dit « avertissez-le ». Dites-lui « écoute, tu ne peux pas vivre dépendant de tout le monde puis siphonner de l'argent de tout le monde à droite puis à gauche ». Puis si la personne dit « non, je ne veux rien savoir, moi je vais continuer comme ça puis… » Vous me devez. Moi, je vais à EVQ, là, puis vous dites, vous prenez soin des pauvres, là, mais moi, je suis pauvre. Mais ça dit, n'ayez point de communication. Une personne comme ça, rebelle, qui ne veut pas travailler, qui ne veut pas s'aider, comme la Bible nous dit si bien, aide-toi, le ciel t'aidera. Non, ce n'est pas dans la Bible, ça. Mais la pensée, quelqu'un qui ne veut pas, qui veut siphonner comme ça, la Bible dit, n'ayez pas de communication avec lui, mais avertissez-le. Mais on garde la porte ouverte. On dit, écoute, mon frère, ça se peut pas là, que tu dépendes sur tout le monde. Là, on va prier ensemble et on va t'aider à trouver un travail. Amen? On va t'aider à trouver un travail. Et pendant un temps, là, si tu n'en trouves pas de travail rémunéré, là, fais du bénévolat. Fais quelque chose. Commence. Sors de chez vous. Fais quelque chose. Sers. Et là, le Seigneur va entreprendre. Et Dieu va entreprendre pour toi. Puis si la personne, le moment que la personne dit, OK, je vais le faire, là, ça vient de s'éteindre. Le moment que la personne n'est plus rebelle, mais elle dit, OK, je vais me trouver une job. Mais là, j'ai besoin de manger. Là, j'ai été de même trop longtemps, mais là, comment est-ce que je... On va l'aider. Encore. Parce qu'on est comme ça. La personne dit oui, là, je veux. Parfait, on va t'aider, puis on va t'aider à arriver à avoir un travail. Puis on va être avec toi, comprenez-vous? Comprenez-vous? Ça, on ne délaisse pas les gens. Mais les gens qui sont rebelles, elle dit, de ne pas avoir de communication avec eux. Pourquoi? De ne pas entretenir une relation avec eux. Parce que si on se rappelle au début, quelqu'un de rebelle, c'est quelqu'un qui est aussi pire, qui est aussi coupable que le péché de la sorcellerie. Voyez-vous? Sauf que là, on a le péché de la sorcellerie, puis on se dit, ben là, il ne veut juste pas travailler, c'est quoi l'affaire? Ben, c'est très grave, parce qu'il a été repris et repris, puis on a fait les étapes de la Bible avec la personne pour que la personne revienne sur le bon chemin. Mais si la personne est rebelle, c'est la discipline spirituelle s'adresse aux rebelles qui ne veulent pas marcher avec Dieu. OK? Puis voyez-vous pourquoi ça me tentait de prêcher ce message-là? C'est bénissant, hein? Alléluia! Gloire à Dieu! Êtes-vous prêts? Je vais terminer bientôt, mais il me reste un autre point pour mettre la cerise sur le Sunday. Ça, je peux vous dire, je ne prêche pas ça chaque dimanche matin de ma vie, mais il faut qu'on prêche ce que Dieu nous dit de prêcher pour protéger la bergerie. Puis si vous connaissez quelqu'un qui ne veut pas travailler, là, vous allez être l'agent de Dieu, l'agent du Saint-Esprit, pour l'encourager à aller dans la bonne direction. L'objectif, c'est toujours secourir, encourager la personne. C'est jamais, jamais de juger. C'est jamais d'abaisser et de briser quelqu'un. Amen. Connaissez notre cœur? Amen. Dernière chose qu'on veut voir ensemble, la protection spirituelle contre les frères pécheurs. Êtes-vous prêts? Venez avec moi dans 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 9 à 13. La dernière portion qu'on va voir ensemble, la protection spirituelle, cette fois-ci, contre des pécheurs. Est-ce que ça se peut qu'il y ait des gens pécheurs dans une église chrétienne évangélique? Est-ce que ça se peut? OK, là, je vais vous lire un texte. Comme je vous dis, de toute ma vie, je n'ai jamais entendu ça dans aucune église. Puis je pense parce que personne n'a le goût de le prêcher. Mais on va voir ce que Dieu dit, parce que toute parole est inspirée de Dieu et utile. Toute parole est utile, sauf que si c'est pour mon bien, moi je veux savoir ce que Dieu dit, puis comment l'appliquer. Parce que si c'est pour mon bien et j'adopte la philosophie de Dieu, moi je vais être béni. L'Église de Dieu va être bénie. L'Église de Dieu va être protégée. Tout ce que Dieu dit puis pense, c'est toujours pour notre bien. Dieu n'a aucune recette là-dedans pour notre destruction. Mais c'est juste le diable qui travaille avec la peur, l'intimidation. Non, non, ne lis pas ça. Franchement, ça va trop énerver le monde. Le monde n'aimera pas ça. Amen. Continue. Arrête de moi, Satan. Écoutez, là, je vais vous lire Bible du Sommeur. 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 9 à 13. Dans ma dernière lettre, je vous ai écrit, l'apôtre Paul parle ici aux Corinthiens, l'église de Corinthe. Dans ma dernière lettre, je vous ai écrit de ne pas avoir de relation avec des personnes vivant dans la débauche. On parle du péché sexuel. Mais je ne voulais évidemment pas dire par là qu'il faut éviter toute relation avec ceux dans ce monde menant une vie de débauche ou avec les avares, les voleurs ou les adorateurs d'idoles, car alors il vous faudrait sortir du monde. Comprenez-vous? T'es en train de dire ici, je vous ai dit de ne pas avoir des relations avec les pécheurs, mais évidemment, je suis pas en train de dire de ne pas avoir de relations avec tous les pécheurs de la planète, sinon il faudrait sortir de la planète. Comprenez? Il est en train de dire, comme on va voir au verset 11, « Non, je voulais simplement vous dire de ne pas entretenir de relations avec celui qui, tout en se disant frère, vivrait dans la débauche ou serait avare, idolâtre, calomniateur, adonné à la boisson ou voleur. Avec des gens de cette sorte, il ne faut même pas prendre de repas. Est-ce à moi de juger ceux qui vivent en dehors de la famille de Dieu? Certes, non. Mais c'est bien à vous de juger ceux qui font partie de votre communauté. Ceux du dehors, Dieu les jugera. Mais vous, chassez le méchant du milieu de vous. » Et tout le monde dit « Hallelujah! Oh, pasteur Joël, c'est bénissant ça! » Personne qui fait ça, là, ce matin. Savez-vous ce que ça veut dire, ce texte-là? Exactement ce que ça veut dire, ce qu'on vient de lire. Écoutez bien ceci. Là, c'est en train de nous dire « Ne faut pas embarquer dans l'hypocrisie des gens. » C'est ça que c'est en train de nous dire. Si quelqu'un qui se nomme frère, qui se dit chrétien, mais qui vit dans le péché à planche, là, se dit « N'allez même pas prendre un repas avec. » Je dis « Mon doux, est-ce que c'est une pensée sectaire? » Parce que je vois que t'es sectaire. Non, non, je suis juste biblique. Je veux juste vous dire ce que la Bible dit. Personne n'ose dire. Parce qu'on a peur d'être catalogués comme sectaire. Mais savez-vous, c'est une catégorie de gens seulement. C'est les gens qui se disent frères qui vivent dans le péché. Ce n'est pas juste quelqu'un qui a chuté dans le péché. Là, parce que Dieu nous a dit comment agir avec les gens qui ont chuté dans le péché. Va, redresse-le, reprends-le avec un esprit de douceur. Vous vous rappelez de cette portion-là? Donc, on fait tout. Quelqu'un vient de tomber. On a tout fait. On est allé gentiment. Après, on est allé avec une autre personne. Après, on est allé devant l'église. On a tout fait pour aider la personne. Et la personne, ici, dans la débauche, dit, « Non, moi, là, je vis comme ça. C'est ma vie. Puis, je vais aller à l'église dimanche matin quand même. » Et là, dans nos églises, ce qu'on a fait, quelqu'un vit dans le péché flagrant. Il s'en fout. On l'a averti. On est allé avec compassion, avec amour, avec les gants blancs, les gants avec du fleuri dessus, tout le kit. On a tout essayé pour gagner la personne. Mais la personne dit, non. Puis moi, là, regarde, c'est une place publique. Je vais aller à l'église si je veux. OK? Et là, on reçoit la personne. Et là, la Bible nous dit qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Et là, j'ai des nouvelles personnes qui arrivent, des nouveaux convertis qui arrivent à l'église. Puis, ah, ces gens-là, ils vivent ensemble. Ils couchent ensemble les fins de semaine. Puis, ah, puis pas de problème. Puis, ah, ben, ça a l'air que c'est comme ça. Dans le Seigneur, ben, c'est correct. Le pasteur dit rien parce qu'eux autres, ils vivent comme ça dans le péché à planche. Bon, ben, c'est correct. Hey, c'est le fun, l'église. On est dans la grâce et la liberté. Alléluia. Non, 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 non. C'est pas ça, pantoute, que la Bible nous dit de faire. Ça dit, est-ce à moi de juger ceux qui vivent en dehors de la famille de Dieu? Les pécheurs, on n'est pas là pour prendre soin de tout le monde de la planète. Certes, non, mais c'est bien à vous de juger ceux qui font partie de votre communauté. Ceux du dehors, Dieu les jugera. Mais vous, chassez le méchant du milieu de vous. Le méchant, c'est celui, le rebelle qui ne veut pas se repentir, qui est décidé, moi je vis dans le péché, puis je viens à l'église quand même, puis se dit frère. Mais moi, devant la parole de Dieu, savez-vous ce que je dois faire? Si je dois faire ce que Dieu me dit de faire. Mais il y a une façon de le faire, savez-vous? C'est en priant. J'ai eu une situation une fois où il y avait plus qu'une fois dans notre église depuis qu'on a l'église est ouverte. Je suis allé rencontrer des gens. Puis notre cœur, c'est comme celui de l'apôtre Paul qui dit, tu sais, j'ai des douleurs de l'enfantement. Notre cœur, là, savez-vous ce qu'on veut, nous? C'est que chaque personne grandisse dans les voies de Dieu, qui aime le Seigneur, qui s'approche de Dieu, s'ils sont dans le péché, qui se détournent de leur péché, qui se repentent et qui marchent avec Dieu, qui soient bénis, qui soient enlevés avec nous. C'est ça qu'on veut, parce que c'est ça que Dieu veut, n'est-ce pas? Mon rôle, si on le sait qu'ils s'en vont en enfer dans leur situation, là, c'est pas de les aimer et de dire, ben, écoute, on est dans la grâce, on t'aime. On les aime, mais on les aime assez qu'on va leur dire la vérité. Une fois, j'ai rencontré, quand j'ai su la situation, des gens qui voulaient se joindre à l'Église, mais qui vivaient ensemble, un couple, pas mariés, qui vivaient ensemble, mais ont dit, ben nous, ben regarde, nous, c'est comme ça qu'on aime ça, puis on a l'argent, ça coûte beaucoup d'argent se marier, puis ils ont tout dit ça. J'ai dit, devant Dieu, dans votre situation, là, vous êtes en danger spirituel, je vous aime. Puis le Seigneur vous aime et vous dit, vous devez vous repentir, vous devez avoir la crainte de Dieu dans votre vie. J'ai dit, là, pour revenir à l'Église ici, vous devez mettre votre vie en règle. Parce que la Bible me dit, chassez du milieu de vous le méchant. Puis le méchant, c'est le rebelle. Mais là, on les prend avec amour au tout début. J'ai dit, vous devez vous repentir. J'ai dit, la porte est toujours ouverte. Si vous voulez, on va vous aider à mettre votre vie en règle. On va s'organiser, on va faire les cours de préparation. On va tout faire pour vous aider. Mais vous devez vouloir marcher avec Jésus pour être considéré un frère ou une sœur dans l'assemblée des fidèles. Amen. Et les gens ne sont plus jamais revenus à l'église. Mais je les ai vus dans d'autres églises, en visite, qui recevaient des paroles prophétiques. Tu vas un grand ministère! Ouais. Eh bien. Mais j'aime mieux dire la vérité à quelqu'un, moi. Grand ministère, non, tu t'en vas direct en enfer, c'est où tu t'en vas? Puis Dieu t'aime assez qu'il va dire la vérité. Je sais que je dérange du monde. Mais je vous aime assez pour vous dire la vérité. Écoutez bien. Il y a une autre situation. Quelqu'un dans le péché flagrant comme ça. Là, je prie, Seigneur, montre-moi. Tu me dis d'enlever le méchant parmi nous. Je sais que cette personne-là, Seigneur, tu veux l'aider. Je prie. Le Seigneur me dit, cette personne-là, là, n'est pas méchante. Elle n'est pas rebelle. Elle est innocente. Elle ne réalise pas ce qu'elle fait. Va la rencontrer. Explique-lui. Puis on a fait ça, Mathilde et moi. Et la personne a dit, je ne réalisais pas dans quel état j'étais. Je ne réalisais pas dans quel état aussi j'ai mis l'Église. Je vous demande pardon, puis je veux changer ma situation. Il m'a dit, oh, alléluia, merci Seigneur, on va t'aider, puis on les a aidés. Comprenez-vous? C'est une question de cœur. Ce n'est pas une question qu'on veut. On veut faire ça, ôter le méchant. Le méchant, personne n'aime avoir le méchant. On aime mieux que le méchant se convertisse, qu'il se repente. Mais vous savez, la discipline que Dieu nous dit dans sa parole, c'est pour ceux qui ne veulent pas se repentir. C'est juste pour les personnes avec le cou raide. Mais dans nos églises, je n'ai jamais entendu dans toute ma vie un enseignement là-dessus. Peut-être vous l'avez entendu, mais gloire à Dieu si vous l'avez entendu. Moi, je n'ai jamais entendu un enseignement là-dessus. Puis il y a du péché flagrant dans nos églises. Des gens qui couchent ensemble à droite, à gauche, qui vivent dans le péché. Puis c'est vomissant. Dieu, il dit, je vais vous vomir de ma bouche. Ces gens-là pensent qu'ils viennent à l'église, ils donnent leur dîme, ils louent le Seigneur. C'est carrément un culte que Dieu ne reçoit pas. Il ne reçoit pas cette adoration-là. Je sais que j'érange toujours du monde, mais que voulez-vous, c'est ma job. Là, un autre texte, vous dites, ben, c'est juste un texte. Comprenez, Dieu vous aime. Si vous êtes dans le péché, là, moi, là, je vais tout faire pour vous aider à vous en sortir. J'ai déjà dit ça une fois à une personne. J'ai dit, nous, là, notre cœur, c'est jamais tourner la page sur quelqu'un. On veut tourner la page sur la sentence de mort sur votre tête. Comprenez-vous ça? Vous avez une sentence de mort. On veut arracher cette page-là sur votre vie. Puis vous dites, voici le chemin de Dieu. Marchez dedans. Parce qu'on vous aime et Dieu vous aime. Quand Dieu nous reprend, c'est parce qu'il nous aime. C'est ça que la Bible nous dit. Dieu nous aime. Il veut qu'on marche avec lui. Amen. Donc, dans la maison de Dieu, nous devons défendre et appuyer les standards de la sainteté. Amen. Donc, ici, c'est dit dans Galates 5, 12, « Puissent être retranchés ceux qui mettent le trouble parmi vous. » Et malheureusement, dans l'Église, depuis l'ouverture de l'Église, on est obligé parfois de confronter les gens et de dire, « Vous vivez dans le péché en ce moment, vous avez le choix. » Jésus ou le diable, la vie ou la mort. Et la personne comprenait ceci. Une personne qui m'a déjà dit, « Ben moi, écoute, là, c'est progressif. Je prends mon temps pour marcher avec Dieu. Quand je vais me décider, ça ne marche pas comme ça, enfant de Dieu. » Savez-vous ce qui est progressif? Une guérison peut être progressive. Mais une décision, c'est instantané. C'est soit je dis, « J'accepte Jésus-Christ dans ma vie et la seigneurie que Jésus est Seigneur de ma vie. » C'est soit que j'accepte que Jésus est Seigneur, ou L'absence de ma décision, le fait de ne pas me décider, c'est une décision en soi. C'est de rester avec Satan et de rester avec la malédiction et les conséquences de la malédiction. On a dit à la personne qui nous disait ça, ben, faut que je prenne mon temps pour me décider. Non. Tu te décides et la guérison, ça peut prendre des années comme tu voudras. Comme, on va prendre le temps, tout ça, il n'y a pas de problème pour la guérison. On va prier avec toi, tu vas pouvoir évacuer, nous parler de tes choses, pas de problème. Mais la décision, ça se fait comme ça. Oui, je veux Jésus ou non, je ne le veux pas. Comprenez-vous, enfant de Dieu? Amen. Puis en passant, je veux juste rajouter ceci. Si quelqu'un arrive dans la maison, on a eu des personnes de toutes sortes. Des prostituées qui peuvent arriver. Des personnes super mal arrangées, qui sont indécentes. Qu'est-ce qu'on fait avec une personne comme ça? On les reçoit avec amour. Pourquoi? Parce qu'on les aime et Dieu les aime. Puis eux, ils ne changeront pas comme ça du jour au lendemain. Il faut leur donner le temps d'arriver. Ils arrivent là. Ils ne connaissent rien. Ils entendent la parole de Dieu. Et là, ah, OK. Si la personne est vraiment indécente, bien là, on va intervenir. Dans notre société, on dit indécent, puis de nos jours, ça peut être n'importe quoi. Il faut que la personne soit vêtue avec des vêtements, vous comprenez? Mais en général, quelqu'un qui ça manque un petit peu de délicatesse ou de... Vous comprenez? On leur donne le temps de recevoir le message. Ils ne peuvent pas être sauvés avant de rentrer dans la porte. Il faut les laisser rentrer comme ils sont. Dieu, le Seigneur Jésus les accepte, les reçoit. Mais l'amour véritable, je veux vous dire, enfant de Dieu, frères et sœurs, l'amour véritable, ce n'est pas ce qu'on vous prêche des fois, que tout est beau, on ne dit jamais rien à personne, on aime tout le monde, puis on ne dit rien, puis on est toute une gang de pécheurs, puis toutes sortes d'affaires de désordre dans la maison de Dieu, puis pourtant Dieu nous a donné d'autres recommandations, d'autres prescriptions. Qu'est-ce qu'on va faire? La grosse mode ou ce que Dieu dit? Moi, je veux faire ce que Dieu dit. Écoutez bien, on a voulu une des fois intervenir. Au lieu de secourir celui dans le péché, certains croyants se sont opposés à la discipline biblique en appuyant la personne dans sa rébellion, disant « Ben non, c'est correct, tu peux continuer à dormir avec ton chum. C'est le pasteur qui est trop légaliste. » Au lieu de plaider avec elle, de revenir à Dieu, de se repentir, la personne dit « Continue dans ton chemin de la mort, parce que moi je t'aime, puis moi je suis gracieux. » Ça, c'est pas de l'amour. Ça, c'est de s'aimer soi-même à un tel point qu'on n'est pas prêt à secourir notre prochain qui est en chemin vers l'enfer. Dans 2 Corinthiens 5, 20, ça dit, « Nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » C'est le cœur de cette maison, soyez réconciliés avec Dieu. Si vous êtes dans une situation de péché aujourd'hui, le Seigneur est là pour vous recevoir, pour vous pardonner. Il est là, Dieu nous aime, il veut qu'on vienne vers lui, il a tout accompli, il a tout payé pour qu'on soit sauvé. Il veut nous sauver, il veut nous délivrer de la sentence de la mort. Mais on ne peut pas marcher avec Satan et Jésus en même temps. On doit faire notre choix, enfant de Dieu. Et dans la maison de Dieu, si des fois vous dites, ben, je sais pas, comment est-ce que je devrais agir avec la personne? Vous avez vos leaders de groupe vie, vous avez les pasteurs, vous pouvez nous parler. Nous dire, ben, comment est-ce qu'on réagit avec la personne? Premièrement, là, aimer. Aimer toujours et garder toujours la porte ouverte à la repentance. C'est ça que Dieu veut. Toujours, on garde la porte ouverte. Le seul temps qu'on dit qu'on doit se protéger, là, c'est quand la personne est rebelle et dit, « Non, moi, je veux le péché et je veux venir dans la maison et rester dans le péché. » Si quelqu'un, par contre, ne se dit pas frère, vit dans le péché à planche, est-ce que c'est différent? Oui, c'est différent. La Bible nous dit, c'est ceux qui se disent frères qu'on doit agir comme ça. Pourquoi? Parce qu'on agit comme si rien n'était, on est en train d'approuver de sa vie. On est en train de faire semblant comme si rien n'était. Réalisez-vous ça. C'est comme si, ben, c'est correct, c'est rien. Vous aimez mieux dire à la personne, écoute, dis-moi pas que tu es un frère dans le Seigneur. Dis-moi-le pas, parce que sinon je ne viendrai plus avec toi. Dis-moi que tu as renié Jésus-Christ, puis je vais venir avec toi. Parce que la Bible me dit, s'il dit son frère, mais il choisit Satan, là, on ne peut pas avoir une relation avec, parce qu'on est en train de dire, c'est correct. C'est correct comme ça. Mais la Bible là, est tranchante. Mais quand on agit vraiment selon Dieu, savez-vous ce que Dieu va faire? La personne va réaliser, hein, mais non, je veux servir Dieu, admettons. Mais là, ils sont prêts à se repentir. Puis là, vous les conduisez au Seigneur, puis vous venez de sauver une personne. C'est beaucoup de choses à digérer ce matin, n'est-ce pas? Mais c'est ce que Dieu nous dit. Je vais inviter l'équipe de la louange. Aujourd'hui, je vais ouvrir la porte à n'importe qui se dirait, aujourd'hui, je veux mettre ma vie en règle. Je veux mettre ma vie en règle devant le Seigneur. Je ne veux pas avoir un coup raide. Je ne vous ai pas prêché ce message-là parce que ça me tentait. Je vous ai prêché ce message-là parce que le Seigneur m'a dit de vous prêcher ça. Parce que Dieu aime cette église et Dieu aime les brebis et Dieu veut vous protéger. Il veut que chaque personne ici ait la vie et la vie en abondance. C'est le cœur de Dieu. Ne croyez pas le mensonge du diable qui vous dirait le contraire. Dieu vous aime. Dieu veut vous sauver. Et vous devez vous décider pour Jésus. On va prier ensemble. Père éternel, je veux prier ce matin pour cette Église. Seigneur, révèle-nous la grâce véritable, l'amour véritable, qu'on puisse avoir tes yeux et discerner, Seigneur, les situations dans notre Église, qu'on puisse secourir ceux dans le péché, qu'on n'arrive jamais au point où la personne est tellement rebelle qu'il refuse absolument de se repentir. Mais Seigneur, que ton esprit soit dans cette maison à tel point que la crainte de l'Éternel s'établisse parmi nous. Seigneur, comme nous marchons dans la crainte de l'Éternel, je sais, Seigneur, que tu vas te glorifier davantage parmi nous. Comme nous marchons dans la sainteté, Seigneur Dieu, tu vas te glorifier. Et Seigneur, je prie aussi pour mes amis sur Internet, à la radio, pour les pasteurs. Seigneur, je prie pour la santé de ton épouse aujourd'hui. Je prie pour la santé spirituelle, Seigneur, que tu puisses toucher l'Église au Québec, que tu puisses toucher l'Église partout à travers la francophonie, tous ceux qui vont entendre ce message, et qu'on puisse être des agents de l'Esprit-Saint qui vont aller secourir ceux qui ont chuté, ceux qui ont tombé, ceux qui sont à terre, qui ont besoin d'être relevés, qu'on puisse les secourir comme toi tu voudrais qu'on le fasse. Notre cœur, c'est vraiment d'être rempli d'amour, de secourir ceux, Seigneur Dieu, qui ont besoin de ta touche. Ce matin, Seigneur, comme ton esprit est ici, et comme ce message est déposé dans les cœurs ce matin, je prie que chaque personne ici puisse vouloir mettre leur vie en règle avec toi. S'il y a des gens, Seigneur, qui sont dans le péché, je prie, Seigneur, que tu leur donnes le courage de venir demander de l'aide. Qu'ils viennent me rencontrer et me demander de l'aide. Parce que, Seigneur, tu n'es pas là, tu ne les attends pas avec un bat de baseball, tu les attends avec les bras tout grands ouverts. Tu nous reçois dans notre état et tu nous aimes. Tu veux nous délivrer. Tu veux nous guérir. Tu veux panser nos blessures. Tu es un Dieu tellement rempli d'amour. Et Seigneur, je prie maintenant que la conviction de ton esprit vienne et touche ceux dans le besoin ce matin. Toi, tu les connais. Merci, Seigneur Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Il y a des gens ici qui n'ont jamais fait de Jésus le Seigneur de leur vie, qui disent, le message, moi, vraiment, de donner ma vie au Seigneur Jésus, je ne l'ai jamais fait. Je veux donner ma vie à Jésus. Pouvez-vous lever votre main là où vous êtes? Si vous n'avez jamais dit à Jésus, je veux donner ma vie, je veux mettre ma vie en règle aujourd'hui avec le Seigneur, levez la main là où vous êtes et je vais prier pour vous. Alléluia. La prière est simple, vous avez simplement à dire, Seigneur, je te demande de me pardonner de tous mes péchés. Lave-moi dans ton sang. Purifie-moi. Je te donne ma vie. Amen. Je veux juste vous dire aussi ce matin. Oui, vous finir ici, monsieur. Amen. Peut-être, pasteur Jérémy, voudrais-tu venir prier avec le frère? Amen. S'il y en a d'autres ce matin qui disent, moi, je veux donner ma vie à Jésus-Christ. Le Seigneur est là pour recevoir ce matin. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Pasteur Jérémy va prier avec vous ce matin. Gloire à Dieu. Ça prend beaucoup de courage de se lever de notre état de mort et dire, je veux rentrer dans la vie. Des fois, il faut marcher sur notre orgueil. Mais c'est un jour de miracle. C'est un jour de miracle. Une seule brebis, ça vaut le coup. Amen. Je veux te remercier pour l'œuvre de la croix. Parce qu'il n'y a personne qui mérite le pardon. Il n'y a personne qui méritait d'être secouru. Mais parce que tu nous as aimés, Seigneur, tu t'es déplacé du ciel à la terre pour nous sauver. On ne méritait rien, on ne méritait pas ton amour, on ne méritait pas ton pardon. Mais Seigneur, tu nous as reçus comme nous sommes. Merci Seigneur, parce que tu fais de nous tes enfants. Merci parce que nous sommes lavés aujourd'hui. Merci qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, parce qu'on t'a demandé pardon, parce que ton sang nous a parfaitement pardonné. Merci Seigneur Dieu, que tu nous as sauvés de nous-mêmes, sauvés de notre orgueil, tu nous as sauvés, tu nous as rachetés. On est en route vers le ciel, on marche sur ton chemin, le sentier de la justice, le sentier de la lumière. Merci Seigneur Dieu, merci Seigneur, on n'oubliera jamais ton saint nom, on n'oubliera jamais l'œuvre de la croix. Merci Seigneur Dieu, merci, on est reconnaissant ce matin. Est-ce qu'on peut le louer ce matin, être reconnaissant, parce que nous avons été sauvés, purifiés par ce matin toute la Bible? J'ai posé la question au début. Croyez-vous toute la Bible? C'est toute la Bible qu'il faut croire, pas juste les parties qu'on veut. Toute la Bible. Parce que les parties qu'on a moins, c'est des parties importantes pour notre protection. Amen. Aujourd'hui, comprenez ceci. S'il y a des pauvres parmi nous, on va les aider. Ne sortez pas. Pensez pas au contraire. Comprenez notre cœur, n'est-ce pas? Mais on va marcher d'une bonne façon pour protéger les brebis, pour protéger les brebis et pour bénir les gens qui sont vraiment dans un vrai besoin. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur Dieu, on te remercie pour ta parole. Merci parce que c'est un Dieu qui protège ses brebis. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu nous aimes tellement que tu veux nous protéger. Tu veux qu'on grandisse dans tes voies, dans ton chemin de la bénédiction. Puis merci parce que tu fais de nous vraiment des agents amoureux de toi qui sait aimer nos prochains. Qu'on puisse vraiment être connu pour ta grâce, la grâce qui sort de nos cœurs, qui est communiquée envers les gens autour de nous. Merci que nos bouches sont remplies de paroles assaisonnées d'amour, Seigneur. Que les gens ressentent ton amour, qu'ils ressentent ton cœur à travers nos vies. Oh, garde-nous d'être arrogants. Garde-nous, Saint-Dieu, d'être remplis de jugement. C'est pas ton cœur, Seigneur. C'est pas notre cœur. Garde-nous, Seigneur, de ne pas jamais devenir comme ça. Mais donne-nous tes yeux pour voir les gens dans le besoin, pour aller les secourir. Et donne-nous également, Seigneur, le fardeau pour les gens dans nos vies qui ont besoin d'être secourus. Qu'on puisse prier pour eux et les voir libérés, les voir entrer dans les parvis de ta maison, Seigneur. On t'aime, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur Dieu. Nous aimons ta parole. Nous aimons chaque parole. Nous les aimons tous, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Nous allons marcher dans une révérence pour ton nom. On a pris au nom de Jésus. Je déclare sur chaque tête ce matin le shalom de Dieu. Rien de manquant, rien de brisé. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Sois richement béni. Bon dimanche et bon groupe vie. Amen.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.